vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Hunt, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui met cold. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'une cuisine non climatisée de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, le meilleur podcast au Canada, selon ma mère. Ce matin, j'ai des affaires à vous raconter. Là, étape numéro 2, je suis rendu, j'ai atteint 215 livres sur la balance, donc j'ai perdu 57 livres depuis le 1er juillet. L'objectif est toujours le même, perdre 100 livres pour inspirer la jeunesse canadienne. Là, je vais vous donner mes trucs. Là. Jeûne intermittent, je mange pas pendant entre 15 et 16 heures, à partir de 18 heures, jusque entre 9 et 10 heures le matin. Des fois, je me rends pas à 16, mais là, je suis assez libéral, là, je vais pas fou avec ça. Et je mange des petits repas, c'est souvent 200 grammes de viande, un peu de riz, là, je vous dirais un quart de tasse mis au hasard dans le plat. J'ai pas de légumes, j'achète des suppléments de légumes déshydratés, puis là je m'envoie ça derrière la cravate dans un Gatorade Zéro. C'est pas si mauvais, là ça passe, ça fait que j'ai mes fruits et légumes, surtout mes légumes, j'ai mes protéines, j'ai un peu d'énergie avec le riz. Je me fais des petites collations avec des bleuets puis du fromage. Là, je suis en mission pour descendre à 8% de taux de gras. Peut-être même 7 ou 6, OK? Avoir les abdos déchirés sur le corps. Et je vais m'en aller avec mon amie Kim Gaumont. C'est la seule celle qui commandite aussi le premier segment. C'est moi qui ai demandé, là. Elle veut venir dans le sud avec moi, elle est prête à m'accompagner et quand on est ensemble, on est deux party animals. Fait que mon idée, c'est de partir dans le sud avec des abdos, puis revenir gras tellement que je me suis scrappé là-bas, puis là, de retourner chercher des abdos. C'est ça mon plan. Le Canada perd présentement 3-1 contre la Croatie. J'écoutais ça ce matin. Je me suis levé à 9h. J'étais allé pas loin de chez moi, là, il y a des exposants en cartes d'hockey. Puis moi, je vais vous le dire, là, j'accumule les cartes d'hockey de recrues québécoises et de joueurs du Canadien que le prix est raisonnable. Donc, tu sais, j'achète une Jordan Harris. J'ai énormément de Kirby Dack. J'ai des Kaden Goulet que dans le temps que le buzz avait pas pris, j'en ai accumulé beaucoup. Fait que j'achète des petites cartes d'hockey, ça me fait rire, puis je vais pas fou avec ça, là. Je dépense pas un prix de fou, là. Ce n'est pas compulsif, là. C'est une petite carte par-ci, par-là, tu sais. Fait que je suis allé là. Après ça, j'ai fait l'épicerie, parce que le truc dans ma perte de poids, c'est de toujours avoir de la nourriture sous la main, puis de toujours être prêt. La semaine, très stricte, aucun trichage. L'alcool, oubliez ça, l'alcool, j'en prends pas pour un bout, ou très très peu, parce que ça ralentit le métabolisme, et là je m'entraîne comme un animal. Suivez-moi sur les médias sociaux, bientôt je vais être plus souvent torse nu qu'habillé. c'était l'introduction. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai écouté un peu le soccer, mais c'est quand même intéressant. Là, on voit que c'est du très haut niveau. J'écoute le Canadien, j'écoute le NCAA football, j'écoute la NFL. J'ai pas manqué un combat de boxe hier. Oui, je suis célibataire. J'étais allé passer une journée avec ma sœur, puis j'ai trouvé que quand t'as des enfants, hein, c'est très impliquant. Il faut que tu fasses leurs devoirs, il faut que tu ailles les reconduire au hockey, il faut que tu les fasses manger. Versus quand t'es célibataire, t'as absolument rien à faire. Fait que c'est deux modes de vie différents. En même temps, j'ai jamais eu un enfant à nourrir et toute la gratitude de voir ses bonnes notes à l'école, cette fierté-là. Puis en même temps, je suis bien content d'avoir rien à faire aujourd'hui puis écouter tous les matchs de NFL qui commencent dans 45 minutes. Fait que c'est ça, j'imagine que d'un côté ou de l'autre, il y a des bons et des mauvais côtés. Soit à avoir des enfants, puisque c'est vraiment, il faut que tu aies la vocation puis que tu sois dédié, ou soit de l'autre côté, d'être un célibataire endurci comme moi, puis en même temps, ben, je peux courir la galipote puis accumuler les conquêtes, sauf que disons qu'on n'accumule pas fort, là, tu sais, ma fiche sur BoxRec ne montrerait pas énormément de combats. Cette semaine, au podcast, je vais vous parler de Kim Clavel qui s'en va en combat d'unification. Et tenez-vous bien, c'est la première fois que j'ai rempli des feuilles de notes. Fait que je vais pas être obligé d'aller sur Internet en même temps. Donc, ça ne devrait pas gricher. En même temps, c'est un test que je fais. Donc, on commence ton podcast préféré. L'autre fois, c'était à mon tour d'inviter tous mes collègues de travail à venir souper à la maison. Hey, j'avais fait de quoi d'impressionnant. Fondue au fromage, bière de microbrasserie. Puis là, je les entends entre eux autres dans la salle à dîner. Il y en a un qui déclare à haute voix, « C'est donc ben propre, site. Je serais pas gêné de manger direct dans le plancher. » J'avais eu un peu d'aide. Kim Gaumont et son équipe de Gaumont Entretien Ménager. Besoin d'un coup de main? Ils sont là pour vous. Ils sont arrivés là avec des machines à fine pointe de la technologie. Bien organisé, mon appartement chaînait comme un sous-neuf. 438-308-5190. Kim Gaumont et son équipe. Vous allez impressionner à visite. Toujours en direct de ma cuisine. Alors là, on commence ton podcast préféré. Le mien. Alors que je m'installe cette semaine à la Place Belle. Yvon Michel a parlé qu'il avait vendu entre 4000 et 5000 billets. Tant mieux. Si ça peut être un succès. Il a dit qu'il était prêt à faire boxer trois fois Kim au Québec l'année prochaine. Donc Kim va vraiment devenir la locomotive de la boxe québécoise. Mais avant de devenir cette locomotive-là, elle a une vraie adversaire devant elle. Kim Clavel, la tenante du titre WBC, fera face à Jessica Neri Plata, championne de la WBA, 28 victoires, 2 défaites, 3 victoires seulement par KO. Attendez-vous pas à un knockout fracassant jeudi. Ça n'arrivera pas. Du côté de Jessica Neri Plata, ce que vous devez surveiller, c'est une fille qui, premièrement, est meilleure que Yenisa Gomez, la dernière qu'on a vue. Donc, on ferme un peu un gap. T'sais. Gomez, elle a perdu son championnat WBC contre Kim. Elle a gagné, je dirais, 1-2 rondes. C'est ça. Là, on a une meilleure adversaire. On peut penser qu'elle va gagner 2 ou 3 rondes, tu sais. Mais l'idée, c'est que si je me trompe, on peut s'approcher d'une nulle ou d'une défaite, tu sais. Ben, je pense pas me tromper, là. 98-92, Kim Clavel. Mais du côté de Plata, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est pas une fille qui va être musculaire comme Kim. C'est pas une fille qui va être bagarreuse. On a une fille qui est plus calculatrice, qui va pas se pitcher à corps défendant comme Yenésia Gomez, mais qui travaille excessivement bien avec sa main avant, au corps et en crochet. Attendez-vous à une fille qui... Ce sera pas du jab avec la main avant, là, ça va être des beaux crochets, ça va descendre au corps. Très efficace avec la main avant, beaucoup plus efficace que Gomez en défensive. On a vraiment quelque chose de mieux que Gomez, et là, c'est de voir à quel point mieux. C'est à quel point elle va aller chercher des rondes ou pas. Fait que c'est intéressant. Clavel va l'emporter 98-92, à moins d'un désastre. Donc, voilà la prédiction, mais c'est vraiment un combat de très haut niveau. Vous pouvez acheter le pay-per-view sans même vous inquiéter si c'est la finale qui vous intéresse. Aussi, on va en parler tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est que hier soir, il y avait un combat entre Evelyn Bermudez, la tenante du titre WBO, et Yocasta Valle, la tenante du titre IBF. C'est que en 5 jours, tu as 2 combats d'unification. Clavel WBC, Plata WBA, Bermudez WBO. Bermudez était 17-0 contre Yocasta Valle qui était 26-2. Valle l'a remporté par décision majoritaire, met la main sur le titre IBF WBO. Fait que là, ce serait facile de dire que c'est un tournoi déguisé, mais est-ce que la gagnante de Kim Clavel, Plata, va aller affronter Yocasta Valle dans une unification complète à 140 livres? Très possible. Surveillez 2 options pour Valle et pour Kim, puisqu'elle va l'emporter. Senesia Estrada chez les 105 livres qui multiplie les ceintures à 105 et 112, à peu près tout gagné. Un jour, c'est sûr qu'elle va vouloir amorcer du 108 après avoir unifié à 105. Surveillez Marlene Esparza, championne WBA, WBC chez les 112 livres. Elle a sensiblement le même nombre de combats que Kim, sensiblement la même expérience chez les amateurs. Elle est signée avec Top Rank. Esparza Clavel, c'est comme un classique déjà annoncé. Autant que Senesia Estrada contre Clavel. Estrada, je fais souvent référence que c'est le monstre à la fin de la cassette. C'est elle la meilleure de la gang, tu sais, la plus dangereuse. Fait que Kim pourrait, tu sais, affronter Valle, affronter Esparza, offrir des revanches, affronter des aspirants, puis là, arriver dans 2 ans et demi, 3 ans, puis faire « voilà le combat d'une vie, Senesia Estrada », puis ça pourrait être à la limite aussi gros que Cathy Taylor contre Amanda Serrano ou Savannah Marshall contre Clarissa Shields. Si les deux filles restent invaincues, on pourrait mousser ça jusqu'à ce point-là. Croyez-moi, je n'exagère même pas ici. Donc, voilà pour Kim Clavel. Un autre combat qui est super intéressant, et là, je vous le dis, je ne suis pas là pour me faire des amis, il s'agit peut-être d'une erreur de matchmaking. D'ailleurs, voici ce que le matchmaker a à dire à ce propos.
Salut Laurent, je suis excité par le combat entre Mazno McDonis et Samuel Théa. C'est un combat de haut niveau, un combat de 10 rounds chez les 140 livres. Samuel Théa est un gars solide de Philadelphie, une ville reconnue pour sa boxe explosive. Son seul faux pas, je te dirais, c'est contre Brandon Lee. Il avait été arrêté au 3e round. Encore là, Brandon Lee était 21-0, c'est pas gênant. Une victoire sur Sonny Fredericton qui était 21-1. Une victoire sur Kenneth Sims Jr. qui était sur l'équipe nationale américaine qui était 13-1-1. Une décision très controversée contre Montana Love qui était 8-0. Donc un gars très très solide qui s'est battu sur les réseaux américains. Donc et puis un combattant avec un style qui est complètement différent de ce que Maz est habitué. Donc c'est pas un boxeur mexicain agressif, c'est un boxeur avec les mains vives, qui est capable de se battre autant en attaque qu'en contre-attaque, il peut se déplacer. Pour Maz, c'est un gros combat d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle vraiment un step-up. Avec une victoire sur Samuel Théa, ben on peut dire que Maz va être prêt là, de plus en plus vers le top 15 mondial. Donc ça, c'est une grande opportunité. Samuel Théa, c'est un gatekeeper pour le top 15 mondial. Donc c'est un combat qui risque d'être très, très, très compétitif.
Excellent commentaire du matchmaker Vincent Morin. Samuel T, 18-4, une nulle. Il est représenté par une gérante qui s'appelle Sarah Fina. Elle était là à la dernière convention WBC. Elle martelait que son Samuel devait être dans le top 15 de la WBC. C'est sûr que là, il revient d'une... il a perdu contre Ben Dunley à son avant-dernier combat. C'était un peu bizarre d'aller là. Mais sur le fond, elle a raison que son Samuel T est assez près, merci, des classements. Pourquoi? Lui, il a perdu contre le méga prospect Montana Love. Mais c'était une majority decision un petit peu controversée quand même. Tu sais, Love... Ça a été la première fois qu'il a mal paru, là, puis que le monde a fait comme « Ouais, peut-être pas un si gros prospect que ça. » Mais est-ce que c'est parce que Love était pas aussi bon qu'on pense ou parce que Samuel Lee est meilleur qu'on pense? Parce que Samuel Lee, il en a donné pour Samuel T, en a vraiment, ou T.A., comme prononçait Morin, Vincent Morin, mais moi je veux dire T, OK? Samuel T, il est peut-être bien meilleur qu'on pense, tu sais, il était sur l'équipe américaine puis tout. Après ça, il va battre Kenneth Sim Junior. Kenneth Sim était 13-1. C'était un gros prospect à une autre époque. Il va le battre. Il va battre Sonny Frederickson, qui est 21-1. Sonny Frederickson, plutôt. Lui aussi, c'est un énorme prospect. Il va le battre. Et là, il va se faire surprendre par... Ben, pas surprendre. Il va se faire assommer par Brandon Lee, qui est un monstre, au troisième. Mais Samuel T, de 1, là, son physique est exceptionnel. Il vient de Philadelphie. Il est très bon. On est ailleurs, là. Puis Maslow McDonough est impressionnant, mais pendant la COVID, il a affronté Eric Encinia, ça a fini en split décision. C'est pas... Il est impressionnant, mais dans ses derniers combats, sans dire qu'il a tendance à passer à vide, il lance peut-être pas le volume qu'il a besoin pour le nouveau niveau des adversaires qu'il a. Tu sais, son niveau d'adversaire a vraiment augmenté, puis il lance pas un volume qui est très élevé. Donc, potentiellement, il peut perdre ses rondes. T'sais. Fait que s'il n'ajuste pas son volume puis qu'il affronte Samuel T, il peut se faire surprendre. Et je considère que c'est le combat qui sera le plus serré de la soirée de jeudi prochain. Avant de parler de la sous-carte, voici ce que Vincent Morin avait à vous dire au propos de la sous-carte.
Salut Laurent, je suis excité par le combat Maslow McDonough et Samuel T.A. C'est un combat de haut niveau, un combat de 10 rounds chez les 140 livres. Samuel T.A. est un gars solide de Philadelphie, une ville reconnue pour sa boxe explosive. Son seul faux pas, je te dirais, c'est contre Brandon Lee. Il avait été arrêté au troisième round. Encore là, Brandon Lee était 21-0, c'est pas gênant. Une victoire sur Sonny Frederickson qui était 21-1. Une victoire sur Kenneth Sims Jr. qui était sur l'équipe nationale américaine qui était 13-1-1. Une décision très controversée contre Montana Love qui était 8-0. Donc un gars très très solide qui s'est battu sur les réseaux américains. Donc et puis un combattant avec un style qui est complètement différent de ce que Maz est habitué. Donc c'est pas un boxeur mexicain agressif, c'est un boxeur avec les mains vives qui est capable de se battre autant en attaque qu'en contre-attaque, il peut se déplacer. Pour Maz, c'est un gros combat d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle vraiment un step-up. Avec une victoire sur Samuel T.A., ben on peut dire que Maz va être prêt là, de plus en plus vers le top 15 mondial. Donc ça, c'est une grande opportunité. Samuel T.A., c'est un gatekeeper pour le top 15 mondial. Donc c'est un combat qui risque d'être très, très, très compétitif.
Hey, c'est-tu bien fait, ce podcast-là? Le matchmaker est là pour venir vous expliquer la sous-carte. T'sais, faut-tu que le budget soit dans le plafond? J'en reviens pas. Marie-Pierre Houle, son premier combat de 8 rondes, avait affronté Olivia Giroula. Giroula, 43 ans, 19-9-3. Écoute-moi, ça m'énerve pas ben, Giroula, mais c'est vrai qu'elle a battu Logan Waller à son dernier combat. Waller a flirté avec les hauts classements puis tout. Donc, ça fait du sens, là. Ma prédiction pour Marie-Pierre Houle, tenez-vous bien, Marie-Pierre Houle sera la tête d'affiche de deux galas au Casino de Montréal en 2023. On va la propulser en tête d'affiche avec Caroline Vert, exemple encore de finale. Ça va aller très vite pour Caroline Vert. Vous allez savoir pourquoi dans quelques secondes. Et mettons les deux autres galas, ça va être Maslow McDonough. Donc, on met Marie-Pierre Houle dans la vitrine. Mais achetez-la pas parce qu'elle sort déjà avec Philippe Farley. Mais d'aller dans la vitrine, Marie-Pierre. Fait que je suis content pour elle. Après Giroula, ça va être d'autres combats de 8 rondes. Donc, elle va être parfaite pour la finale. On va commencer à viser des classements, à la positionner pour un championnat du monde. Marie-Pierre Houle aura sa chance en championnat du monde. C'est dit. En novembre 2022, c'est dit. Ça va arriver quelque part en 23. Éric Basseran va affronter Juan Carlos Ramirez Garcia. Caroline Vert va affronter Estefania Gonzalez Franco, qui avait résisté Cironde à Lila Baudouin. C'était quand même bien battu. C'est une crossfiteuse, elle, comme a dit Vincent Morin. Elle est top shape. Faut se rappeler qu'on avait fait venir un petit tonneau pour affronter Caroline Vert. Puis la fille paraissait tellement mal, puis vieille à peser, que Yvon Michel a annulé le combat avant qu'il arrive un drame. Elle s'était battue la semaine d'après en Ontario. Ils avaient trouvé une solution. Mais là, ils ont amené une fille avec les abdos déchirés, sa peau. Elle est en shape. Elle est résistante. Carrière en deux temps où elle passe pro à 18-19 ans. Elle revient 11 ans plus tard à 30 ans après sa carrière de crossfiteuse. Taillée au couteau. C'est une fille résistante. Caroline Vert, la régie a accepté d'y donner un combat de Cironde à son deuxième combat. Je suis content, ça permet des adversaires comme Franco. Prédiction. Caroline Vert sera en combat de championnat du monde en 2024. Houle en 23, Vert en 24. C'est ma prédiction, ça va aller très vite. Avant son dixième combat, elle va être classée top 5 dans les 126 livres ou 130 livres, là, dépendamment où ce qu'elle va aboutir. Prédiction après prédiction. Et Derek Pomerleau, lui, va affronter Gustavo Magara Rodriguez 3-1. Espérons qu'il soit combatif. On a eu la carte complète à Shawinigan le 16 décembre. Veux pas. Je suis quand même curieux. Dans ma tête, d'opposer le gala de Yvon Michel avec celui de Camille et Stéphane pour voir qui va vendre le plus de billets. Est-ce qu'on aura une grosse disparité? Est-ce que d'un côté, on aura 5000 à Place Belle puis 2200 à Shawinigan? Est-ce qu'on aura 2200 à Place Belle puis on va refuser du monde à la porte à Shawinigan? Toujours intéressant, quand on est mal commode comme moi, de faire des comparaisons. Ah oui, j'avais oublié de vous raconter ça. Je vais vous le raconter cette semaine. Il y a Michel Laprise de RDS qui s'est fâché puis qui a fait un post pour dire que Franco Nuovo était un vieux monsieur qui avait fait une entrevue gênante avec Kim Clavel. Puis là, moi, j'étais chez nous en train de me faire bouillir du poulet puis de manger du brocoli. Puis là, je me disais, voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait de si grave que ça? Je n'ai pas écouté l'entrevue, m'intéresse pas. J'ai lu son texte, puis en gros, Nuovo, il a demandé à Kim Clavel, as-tu un chum? Mais Kim Clavel, c'est la célibataire la plus hot du Québec depuis Joanie Rochette. Qu'est-ce qu'on essayait de savoir avec Joanie Rochette? C'était qui son chum? Qu'est-ce qu'on essaye de savoir avec Kim Clavel? C'est qui son chum? Bon, c'est un peu mon oncle, mais rien de très anormal. Donc, moi, je suis pas fâché sur celle-là, même que si Kim Clavel en veut un, chum, je me propose. Kim, pas besoin d'aller chercher en télé-réalité ou de courir après des athlètes professionnels. T'en veux un, chum? T'en as un? J'accepte. Fait que c'est réglé, t'as déjà... Là, t'en as un, chum, si tu veux. Fait que si t'as besoin, en plus des ceintures de championnat, quelqu'un peut t'aider à les tenir parce que là... T'as juste deux bras, puis tu pourrais potentiellement avoir quatre ceintures. On en tiendra deux chaque dans les événements mondains. Fait que ça y est, je suis disponible pour sortir avec Kim Clavel si quelqu'un peut lui envoyer l'extrait. Donc, après, Franco Nuovo a posé comme question un peu rigolote. Hey, ton père a dit capoté quand il a appris que t'as battu boxe. Bon, c'est un vieux classique, tout le monde fait ça. Comment tes parents ont réagi parce que t'es une fille puis tu veux boxer? Arrêtez de vous énerver, c'est monnaie courante comme comportement. Puis après ça, il a dit, Quand les gars, ils se battent, il y a des filles qui passent entre les rondes. Quand les filles se battent, il devrait avoir des gars. Ça, à la limite, je suis d'accord. Ça a déjà été exigé dans des combats en Europe. Il y a des promotions comme Boxer qui ont décidé d'arrêter les ring girls. Je dis, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'autres problèmes de société au Québec, puis on a beaucoup d'autres choses à régler en boxe, mais est-ce que les ring girls sont encore essentielles? Puis j'avais ce raisonnement-là hier dans ma tête, puis je me disais, je trouve que les ring girls, c'est comme aller déjeuner au déjeuner sexy, tu sais. La fille est pas vraiment sexy, ton déjeuner est pas vraiment bon. Tu serais pas mieux de déjeuner chez Cora puis d'aller aux stripteaseuses le soir, tu sais, comme ça t'aurais les filles que tu veux, vraiment sexy, puis t'aurais ton bon déjeuner dans ton assiette, tu sais. Fait que je trouve que c'est un peu pareil les ring girls, tu sais, c'est comme on est là puis là on est comme on crie, mais dans le fond la fille est pas vraiment sexy, elle est pas déplacée, rien. Elle se promène avec les cartes. À quoi ça sert? Je sais pas trop. Elle sourit. Elle serait pas là. Puis on s'en rendrait pas nécessairement compte. Puis en même temps, tu sais, c'est l'image de la femme. Il y a des jeunes filles dans la foule. Là. On veut pas hyper sexualiser l'image de la femme. Puis, tu sais, il a posé la question, mais il l'a comme fait avec un sourire. Moi, je le sais pas, là. On est rendu où en 2022? Votre réponse sera la mienne. Puis après ça, c'est ça. Mais tu sais, Kim est à Radio-Canada. Attendez-vous pas à ce que Franco Nouveau lui demande qu'est-ce qu'elle pense du combat entre Yocasta Valley puis Evelyne Bermudez. C'est pour ça qu'un podcast comme le mien existe, pour préparer la suite des choses, pour donner des prédictions. C'est certain que si vous voulez entendre parler de boxe, puis vous syntonisez Radio-Canada, ça va être mêlé un peu. Fait que... C'est ça, mon Michel Laprise. Veuillez pas fou avec ça. Il a pas été super bon, Franco Nouveau. Pas grave. Puis tant qu'à moi, ils sont tous mauvais à part au podcast. Laurence, écoute parler. C'était ta chronique québécoise. La chronique internationale avec Laurent Poulain et sa feuille mobile. Alors, hier, chronique internationale, hier, j'étais chez ma soeur. On est allé au Ikea. On a joué avec les enfants. J'ai joué avec les enfants un peu, mais là-bas... Il y a un Amazon Fire Stick, puis je pouvais écouter mes galas sur DAZN. Donc, Dillian White a battu Jermaine Franklin par décision majoritaire. Il y avait un juge qui avait un combat nul, deux juges qui avaient 116-112. Et là, les gens se sont comme indignés sur les médias sociaux. Puis je regardais le combat froidement, puis Franklin était très actif, semblait gagner des rondes en début de combat, mais touchait beaucoup les gants, touchait les épaules. Dillian White avait l'air de frapper vraiment fort en revanche, travaillait au corps. J'étais très à l'aise avec le 116-112, que les gens semblaient crier à la controverse un peu vite sur les internets. Donc, Dillian White l'emporte 116-112 contre Jermaine Franklin. Jermaine Franklin, lui, il voit son stock est à la hausse dans la défaite. Je le verrais très bien affronter des prospects comme Jared Big Baby Anderson. Je le verrais très bien, moi, venir affronter mon bon ami Simon Kane. Je le verrais très bien affronter Bakhodir Jalolov, qu'on a vu hier, l'Olympien. Jermaine Franklin, sa valeur est à la hausse dans la défaite. Et Dillian White, de son côté, devrait, selon Eddie Hearn, affronter Anthony Joshua quelque part en mars prochain, si j'ai bien entendu l'entrevue d'après-match. Il y avait à l'autre poste, dans un combat qui est déjà peut-être en nomination pour le combat de l'année, Régis Progrès a dit que c'est le meilleur boxeur qu'il a affronté dans sa vie. Il l'a arrêté au 11e. Régis Progrès l'emporte contre José Zepeda au 11e round pour mettre la main sur la ceinture WBC, il a dit « Ce titre WBC, c'est comme gagner une montagne d'or pour moi. Il est très heureux. Ce Régis Progrès, on est content pour lui. Toujours intéressant. Que fera-t-il? Va-t-il monter à 147, essayer de craquer Crawford et Spence? Il en a parlé souvent. Va-t-il rester à 140, essayer d'unifier les titres ou d'accumuler les titres, je le sais pas. Que fera Régis Progrès? C'est intéressant. Zepeda, lui, c'est sa deuxième défaite par KO. Il est encore très dominant, mais il vit, il semble périr par l'épée du KO. Jermall Charlo était sur place et il a attaqué Dimitri Bivol pour lui demander un combat dans sa face. Message à Marie Spencer. T'aurais dû aller dans sa face à Marie-Ève Dicker. Message à Volny. Tu devrais aller dans sa face à Steven Butler. Provoquer les choses. Vous voulez des combats, allez dans la face de l'adversaire. Fini là, les gentillesses. On veut des combats, on les demande poliment sur le sur rds.ca. Tu veux un combat, va dans la face de l'autre. Moi, là, arrêtez de niaiser. La journée que je vais être le promoteur, le gérant d'un boxeur, là, la journée là, que ma Céleste Baillargeon va passer pro, mon athlète, on va aller attaquer les adversaires, nous autres. C'est réglé. Un autre problème de régler. Affaire, là, je vais affronter une telle, je vais faire un post poli avec deux hashtags sur Facebook. Non, non, va dans sa face, demande le combat. Passera pas par quatre chemins. Donc, est-ce que Jermall Charlo va finir contre Bivol? C'est quelque chose que j'aimerais voir, quelque chose qui pourrait potentiellement arriver. Fabio Wardley est un animal qui a jamais boxé amateur, mais qui assomme les gens. Il a arrêté Nathan Gorman au troisième ronde. Zach Parker a perdu son titre WBO, sa chance au titre WBO intérimaire. C'est John Ryder met la main dessus. C'est comme briser une main, je pense, ce combat-là. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que ça rapproche John Ryder de Canelo, qui est une rumeur éternelle? Je ne le sais pas. Canelo, qui un jour devra défendre contre l'intérimaire, à suivre. Mais finalement, John Ryder se ramasse avec le titre contre toute attente. Shakur Stevenson a déclaré « Je peux bien affronter Gervonta Davis, mais je n'ai pas l'intention de perdre contre un nain. » Ça m'a fait très... David Day s'est fait aller à Marboulette toute la semaine. Il a dit « Ouais, ouais, avoir affronté Usyk quand j'étais dans mon prime, je l'aurais battu avec ma vitesse et mes déplacements. » Hey, David Day, ferme la donc. Hein. Avoir eu 32 ans encore l'année passée, j'aurais sorti que avec Macha Grenon puis Marina Orsini dans la même année. Facile de dire n'importe quoi. Je te déteste, David Day. David Haney, lui, a dit qu'il aimerait bien affronter Teofimo Lopez dès 2023. Benavidez contre Plante. Benavidez a déclaré « Je vais faire mieux que Canelo pour prouver mon point. » Donc, c'était... Ça va être comme ça maintenant, la chronique internationale. Je vais l'écrire sur une feuille, je vais vous garocher ça bien vite. On passera pas la semaine sur une chronique internationale non plus. Là. C'est réglé. Ça, la chronique internationale, c'est réglé. Les combats du week-end prochain. Kevin Lerena, l'aspirant numéro 13 au titre WBA, va affronter Daniel Dubois pour un des nombreux titres WBA. Dubois défend son titre. Lerena ne devrait pas résister très longtemps. Tyson Fury affronte Derek Chisora dans ce qui est une trilogie. Plusieurs souhaitent que Chisora passe une grosse main droite puis qu'on passe à d'autres choses. Virez pas fou, là. Fury va gagner facilement la semaine prochaine contre Derek Chisora. Et le combat que je vais surveiller, c'est Ivan Mendy contre Denis Berichik. Berichik est un animal en train de monter. Va aller se mélanger au mélange avec les autres 135 livres. Voilà un combat qui est intéressant. Et Ryan Rosicky devait affronter Alan Green. Alan Green, pour la quatrième fois, se rend pas au Canada dans sa carrière quand il est supposé venir ici. Va affronter Mario Aguilar, qu'on a vu contre Shaquille Finn, et Arthur Ziadinov. Ce sont les combats à surveiller la semaine prochaine. C'est pas la fin du monde. Là, il y a la NFL qui commence dans les prochaines minutes. Fait que je t'en vais de vous couper le sifflet, comme on dit. Grosse semaine. On va... Écoute, Kim Clavel, ceux qui veulent des billets, je pense qu'il en reste. Le gars-là est disponible. Allez voir sur le groupe Yvon Michel, là, si vous voulez le voir. Je sais que les cages au sport l'ont acheté. Le retour de la cage au sport en boxe. La cage au sport a acheté le combat de Kim Clavel. Vous avez Shawinigan qui s'en vient. On a Christian Mbili, Sadreddin Akhmedov, Arslanbek Makhmudov. Trois finales en 24 heures pour Eye of the Tiger. On a notre gala du premier mois. Je vous le dis, combat de la semaine, je vous le répète, le combat le plus compliqué, le combat qui va vous tenir en haleine, vous allez être surpris par la qualité de l'adversaire, c'est Samuel T. Je reviens avec ça. Contre Maslow McDonny, c'est le meilleur combat de la semaine. On a Kim en unification. Écoutez, c'est pas... combat d'unification, là. À la Place Belle. C'est du sérieux. Jeudi soir, fait encourager ce combat-là. Puis, comme je vous dis, on est gâtés quand même. Tyson Fury, je vais vous donner ça un exemple très simple, OK? Votre blonde est partie avec des amis magasinés. Écoutez Tyson Fury. Votre blonde, elle vous dit, j'aimerais ça qu'on écoute un film collé. Écoutez-le, là. Derek Chisora, c'est pas... commence pas à faire une chicane de coupe pour écouter Derek Chisora, là. Moi, je suis pas particulièrement content de ce choix d'adversaire de la part de Tyson Fury. Ça s'en vient un peu... Hey Tyson, tu t'en viens plate. Tu nous donnes jamais les combats qu'on veut. Moi, ça va en avoir ma claque de Tyson Fury. Merci, c'était ton podcast préféré.
Pourquoi que je vais dire? Il m'a promis que Martel, on l'a envoyé à l'hôpital pour la Saint-Valentin. C'est là qu'il va aller, le Québécois, Martel.